Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
On va tout simplement ouvrir notre Bible et je vous propose une courte lecture que nous allons faire dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc. Chapitre 5 et au verset 27. Voilà la réflexion que nous allons partager ensemble sur une rencontre entre Jésus et puis un homme qui s'appelle Lévi. On le connaît davantage sous le nom de Matthieu. Voilà. Luc 5, 27, c'est bien ? Très bien. Alors, je lis. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au bureau des péages. Jésus lui dit « Suis-moi » et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Voilà pour ce que Dieu nous place sur nos cœurs cet après-midi. Vous avez remarqué avec moi, il est question de médecins et de malades. Alors j'espère que vous êtes en bonne santé, d'abord, que je m'inquiète quand même un petit peu de votre état. Mais quoi qu'il en soit, vous allez écouter l'évangile, c'est une bonne nouvelle, vous allez guérir. Voilà, hein, c'est ça l'évangile. Alors, Jésus nous parle donc de médecins et de malades. Et si nous regardons bien, naturellement, à travers le sens de ce que nous rapporte cette rencontre entre, eh bien, Matthieu, Lévi, Jésus, et puis aussi tous ces gens qui sont autour dans cette scène, qui sont des malades qui s'ignorent. Il est question des pharisiens et des publicains, et qui jugent un peu la situation d'une manière assez arbitraire. Alors Jésus va justement tirer cette conclusion de ce petit épisode, il dira « Mais moi je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, parce que ça ne sert à rien, ils sont justes, mais je suis venu appeler tout simplement des pécheurs. » Alors si on fait le rapport et que l'on met cela un petit peu sur nos cœurs devant nos yeux, on comprend déjà le sens de cette dimension, qui est une dimension, c'est vrai, à la fois morale, parce qu'il y a un jugement, et puis spirituel, parce que véritablement Jésus va se présenter comme celui qui est le médecin, le grand médecin, celui qui est capable de réparer à la fois les corps, les âmes et les esprits. Vous avez certainement, vous le savez, qu'un médecin peut devenir malade, hein, c'est pas exclu. Et puis un malade peut devenir aussi médecin. Et ça va dans les deux sens. Ce qui met tout le monde sur le même niveau, vous comprenez ? Hein ? Mais dans un autre texte, Jésus retournera aussi la question, il dira devant tous ces prétendants à la suffisance, il dira « Mais voilà, l'argument qu'il se servait contre Jésus, médecin, guéris-toi toi-même. Comme on dira à Jésus, bien, si tu es le sauveur, tu descends de ta croix. » Comprenez, il y a tout un ensemble de choses qui est là autour de Jésus, mais Jésus avait toujours des paroles de sagesse qui mettaient ses détracteurs en déroute. Alors, c'est vrai que Jésus veut nous dire d'une manière tout à fait significative que l'homme, quel qu'il soit médecin ou qu'il soit malade, ce sont tous des pécheurs. Tout le monde est renfermé dans la même situation. Et la bonne nouvelle que Paul nous dira, il ajoutera ceci, mais Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, non pas pour qu'ils soient perdus, mais pour qu'ils fassent grâce à tous. Mais la différence, c'est qu'il y en a qui vont recevoir la grâce et d'autres qui vont la refuser, en étant appelés. Et c'est bien justement le problème qui surgit dans ce texte, comme dans d'autres d'ailleurs, où Jésus a eu maille à partir avec des gens qui pensaient que, bien, ils étaient au-dessus, qu'ils n'avaient pas besoin d'un sauveur. Pourquoi Jésus? Surtout qu'ils avaient beaucoup de préjugés contre Jésus parce qu'ils l'attendaient sous d'une autre manière, sous une autre forme, d'une autre façon. Alors, ce prédicateur venant de ces contrées lointaines perdues de Galilée, ça ne les intéressait pas. Il aurait fallu que le Messie fasse son apparition dans le temple de Jérusalem pour que ce soit crédible. Alors c'est pour ça qu'il a été souvent décrié. Et vous savez, la force qu'il peut y avoir entre un malade et son médecin, c'est le même rapport que nous avons et que nous allons découvrir, c'est la confiance. Ça aide, hein. Parce que si on n'a pas confiance dans son médecin, eh bien on va le changer, ou on va faire autrement. Et ça, je crois que c'est la même chose, et je crois que les paroles de Jésus sont appropriées, elles ont une exactitude pour nous amener à comprendre que, comme nous l'avons chanté, c'est la foi, hein. On l'a chanté il y a un instant, on a parlé de la foi, on parle de la confiance. Eh bien, c'est quelque chose de très important. Alors, on va revenir au texte et puis on ira un petit peu plus loin tout à l'heure pour expliquer le mécanisme qui se passe entre celui qui nous appelle pour être guéri complètement, totalement, éternellement, et puis l'homme en souffrance que nous sommes, que le monde entier, représente. Jésus, donc, voit un publicain, c'est-à-dire un homme qui ne faisait pas partie de ces gens que l'on pourrait appeler religieux et de là à douter peut-être de sa moralité dans les affaires et puis dans sa vie, décrié par le monde qui se donnait pour être certainement plus spirituel et plus religieux, plus pieux que les autres. Donc il s'appelle Lévi, c'est Matthieu, hein, si vous voulez. Ce Matthieu, nous le retrouvons, vous savez, il n'a pas, quand le Seigneur l'a appelé, il l'a appelé pour une fonction. Il l'a appelé pour une haute mission, parce qu'il est quand même notre Matthieu, c'est lui qui a écrit le premier évangile. C'est lui qui a écrit le plus sur Jésus, 28 chapitres. C'est lui qui a écrit, parce qu'il était juif, c'est pour ça qu'il s'appelle Lévi, c'est le nom juif, hein. Et c'est pour cela qu'il parlera dans son évangile aux juifs, du Messie promis, c'est-à-dire que c'est tout à fait dans la ligne de la prophétie biblique, annoncer aux Juifs le Messie, leur Messie. Alors, on voit qu'il a eu une mission tout à fait particulière et il s'en est bien acquitté. Donc, avant Matthieu Lévi, eh bien, il était au bureau des péages. Donc, c'était un fonctionnaire, on pourrait dire. Voilà, il était à percevoir des taxes, des impôts, enfin, vous savez, tous les gens qu'on aime bien d'habitude, hein. Voilà. Et, enfin, c'est pas qu'on les aime pas, mais bon, il n'y a rien en retour, alors, enfin, c'est pas le sentiment que l'on a en tous les cas. Mais toujours est-il qu'il était là, et c'était quelqu'un qui était vu, parce que peut-être même à la limite, comme Zachée, je ne sais pas jusqu'au point où on peut dire les choses, mais s'il devait, certainement au bureau des péages, à l'entrée d'une ville, ou je ne sais pas, comme on a les péages sur les autoroutes aujourd'hui, hein, vous savez, c'est toujours resté pareil. Hein. Et on s'aperçoit que s'il percevait quelque peu de l'impôt pour les Romains, alors là, ça en faisait un homme détesté, hein, comme ça a été à un moment donné de notre triste histoire assez récente, où on n'aimait pas les collaborateurs. Alors, bon, on ne sait pas jusqu'où ça va, mais peu importe, il était là, il avait son travail, il s'attendait à tout autre chose que de rencontrer, finalement, un bouleversement dans sa vie ce jour-là. Hein. Et Jésus, donc, est venu à passer par là, et il s'est adressé directement à lui, et lui a dit ces mots, mais suis-moi, deux mots, ça suffit. Et la chose extraordinaire, parce que là on se pose toujours la question, parce que si quelqu'un me dit, suis-moi, c'est pas forcément évident que je vais le suivre, hein. Faudra qu'il me donne un peu plus d'explications. Hein. Vous rendez compte? C'est quelque chose, vous connaissez pas? Vous ne savez pas, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui surgit dans votre vie comme ça, et il passe à côté de vous. Allez, viens, et tu me suis. Et le texte nous dit, il a tout laissé, et il s'est levé, et il l'a suivi. Alors, entre ces quelques lignes, ces quelques mots, qu'est-ce qui a pu se passer? pour qu'un homme comme Lévi puisse faire confiance. Je crois qu'il y a eu un bouleversement dans sa vie. Ça arrive, et j'ai entendu des témoignages extraordinaires de gens qui ont été saisis par le Seigneur en l'espace d'une fraction de seconde. On en a d'autres hein, comme ça, hein, dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire du Nouveau Testament en particulier, où vraiment ça a été transcendant, on peut dire le mot. Hein. Et je crois que peut-être la personne de Jésus, s'il avait déjà un tant soit peu entendu ce que Jésus avait fait ou avait dit, peut-être que ça l'a sensibilisé. Alors qu'il y en a tant d'autres, hier comme aujourd'hui, qui se font tirer l'oreille. Ils entendent l'évangile pendant des semaines, pendant des jours et voire des années. Le record a été battu, nous avions une auditrice dans l'église où j'étais auparavant. Elle a attendu 30 ans avant de dire oui au Seigneur. Elle a dû épuiser des pasteurs. Hein. 30 ans, vous vous rendez compte? Et on l'a baptisée quand même. Hein. Voilà. Mais bon, voyez qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, n'est-ce pas, hein? Alors, bon, ceci dit, il a dû se passer quelque chose dans sa vie, un mot, et ça devait être une parole d'autorité, hein. Viens et suis-moi. Là, c'est encore plus court parce que dans un autre évangile, c'est suis-moi. Alors, il a tout laissé. Ça voulait dire qu'il allait abandonner sa charge de fonctionnaire et que, bien, il partait sans savoir où il allait. Il a suivi Jésus. Parce que suivre Jésus, c'est pas tellement connaître le programme à l'avance. Ça vous rappelle quelqu'un? Ça vous rappelle Abraham. Vous savez, Abraham, qui est devenu Abraham. Mais quand Dieu l'a appelé du haut du ciel, viens, quitte ton pays, ta patrie, et voilà, va dans le pays que je te remontrerai. On peut dire que Abraham n'avait rien du programme. Et c'est encore une question de confiance. Dans ce sens que si vous voulez suivre Jésus, il va y avoir un premier pas à faire, et quand vous aurez fait le premier pas, vous ferez nécessairement le deuxième, et vous découvrirez au fur et à mesure que vous allez marcher, pourquoi vous marchez, pourquoi vous suivez, et pourquoi vous êtes, ce que vous êtes réellement, et vous allez percevoir au bout d'un certain temps ce que la pensée de Dieu qui va s'imposer dans votre cœur, eh bien, en ayant peut-être jeté quelques regards en arrière en disant « mais j'ai fait ce chemin », et je comprends pourquoi j'ai été appelé. Je comprends pourquoi et à quoi je suis destiné. Ça, c'est le côté merveilleux de l'évangile. On ne sait pas pourquoi au départ, et après on s'aperçoit, et quand on a quelques années de conversion, on se dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Tu m'as donné une vie de bonheur, parce que c'est ça, hein. Tu m'as donné un plan à suivre. Tu as fait des choses pour moi, et quand je me retourne, mais je me dis, mais heureusement que je n'ai pas trop réfléchi, hein. Mais c'est notre cœur qui doit parler à ce moment-là, parce que si c'est notre tête, on ne démarre jamais. Il n'y a pas de problème. Alors il l'a suivi, tout simplement. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Qu'est-ce qu'il devait être heureux, hein? Moi, je crois qu'on peut s'imaginer les choses, si on veut les mettre en configuration, que Lévi a suivi spontanément Jésus, et puis à un moment donné, il lui a dit, écoute, tu sais, je suis tellement heureux de t'avoir rencontré. Permets-moi qu'avant que je quitte ma place, ma fonction, que je quitte mes amis, que je fasse un grand repas, et on va être tous ensemble, et on va se réjouir. Vous vous rendez compte? C'est formidable. Et vous avez remarqué que l'évangile, c'est toujours souvent autour d'un festin, d'une fête, d'une noce. C'est comme ça, hein. C'est pas rébarbatif, l'appel au salut, hein. Et on sait que très, très souvent, Jésus a mis en parabole l'histoire de la table. Tu dresses devant moi une table et ma coupe déborde. Ouais, c'est toujours dans cette même pensée, hein, que les choses vont. Alors, Lévi, donc, lui a donné un grand festin. C'est signalé avec un adjectif grand. Donc, ça s'est pas passé le jour même, mais il a dû y avoir quelque chose, ils se sont arrangés, et puis il a fait donc dans sa maison, et dans sa maison, il y avait beaucoup de publicains, puisque c'était ses amis, c'était les amis de Lévi, tous ces gens de connaissance, tous les gens qui étaient, eh bien, en effet, familiers avec lui, et il y a des superlatifs d'abord, enfin superlatifs en tous les cas, il y a des adjectifs qui désignent l'importance en tous les cas, ou la valeur des choses, donc grand festin, beaucoup de publicains, et encore d'autres personnes, sans compter ceux qui sont déjà nommés, qui étaient à table avec eux. Ouais. La première mission de Matthieu Lévi, ça a été déjà de rendre témoignage. Dès l'abord, il venait juste de croire à la parole et à l'invitation de Jésus, il ne savait pas grand-chose d'autre, hein. Mais il a commencé par dire, eh bien voilà, on va rendre témoignage autour d'une table. Remarquez, c'est un bon moyen aussi, hein, parce que pendant que les gens mangent, vous pouvez leur parler, c'est vrai, hein, c'est toujours autour dans ces circonstances qu'il n'y a pas de manière particulière pour un témoignage. D'autres personnes étaient à table avec lui. Et puis, il s'est passé quelque chose assez désagréable parce qu'on se demande ce qu'ils viennent faire, ces gens. Il y avait aussi les pharisiens et les scribes. Et ils étaient toujours à écouter aux portes ou à regarder par la fenêtre. Ou peut-être à passer, et là, quelque peu la tête à travers la porte pour voir un petit peu ce qui se passait. Et les pharisiens et les scribes, eux, murmurèrent, au lieu de se réjouir. Ils se sont dit, mais on nous dit que... Enfin, il nous dit, ce Jésus, que c'est un prophète. Enfin, c'est pas Jésus qui le disait, c'est des autres qui le disaient de lui. C'est un prophète, c'est un homme saint. Bon, c'est vrai qu'on a constaté qu'il faisait des miracles, d'accord. Que il y avait là dans sa vie des choses qui étonnent, surnaturelles, extraordinaires. Donc ça avait quand même, ça avait déjà alerté un petit peu les pharisiens, mais comme ils étaient pleins d'envie et de jalousie, eh bien ils préféraient retourner les choses dans le sens négatif que positif, parce que ils se disaient, ça c'est pour le bas peuple, c'est pour les petites gens. Ah, ils le suivent, mais bon, ce sont des pauvres gens, ils ont rien à perdre, ils le suivent tout simplement. Alors, ils étaient quand même, ces pharisiens, animés d'un esprit qui n'était pas un bon état d'esprit, et ils murmurèrent. Et au lieu de le dire à Jésus, vous remarquez, si vous suivez le texte, c'est comme ça, au lieu d'aller voir Jésus en disant, mais qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Et pourquoi tous ces gens? Pourquoi c'est vous êtes rassemblés? Et qu'est-ce que t'as été appelé, ce pauvre Lévi Matthieu, là? Qu'est-ce qu'il vient faire avec toi? Et qu'est-ce que tu veux en faire aussi? Vous voyez, un petit peu l'inquisition, les dispositions qui ne sont vraiment pas bonnes. Et ils murmurèrent, et ils ont été le dire aux disciples. Alors ils se sont approchés d'un des disciples qu'ils ont attrapé par-ci par-là, et ils lui ont dit, mais dis donc, ça pose un problème. C'était un problème pour eux, c'était pas un problème pour Jésus ni pour Matthieu, hein, pas du tout. Et il dira, mais pourquoi? Ah, c'est toujours cette question, parce qu'on veut comprendre, hein. Alors pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains, mais en ajoutant ceci avec les gens de mauvaise vie? Mais qui dit qu'ils étaient de gens de mauvaise vie? Bien sûr, il y avait une réputation, parce qu'ils n'allaient pas au temple, parce qu'ils ne fréquentaient pas les synagogues, parce qu'ils ne donnaient peut-être pas les offrandes. Ah, ça, c'est conditionne aussi les amis, hein, dans le domaine de la religion. Alors, oui, ils n'étaient pas comme les autres. C'est sûr qu'ils avaient peut-être une vie qui était peut-être, voilà. Mais aux yeux des pharisiens et des scribes, c'était pas des bons chrétiens. Ouais. C'est pas des bons chrétiens, des bons juifs en tous les cas, hein. Mais comment peut-on juger cela? Comment peut-on juger? Alors ils ont fait cette réflexion. Et c'est Jésus qui a pris la parole à ce moment-là. Et il a réglé le problème. Il a dit, mais ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Vérité. Mais les malades. Et c'est vrai. Les uns et les autres, si nous sommes en bonne santé, je vois pas pourquoi nous irions voir le médecin pour lui dire bonjour, il a autre chose à faire. Ça, c'est certain. Parce que je me sens malade, parce que j'ai quelque chose qui ne va pas et je vais voir quelqu'un, un professionnel de la santé, pour que peut-être il vienne m'aider. C'est légitime, il n'y a rien à redire là-dessus. Et en ajoutant ceci, là, parce que c'est une question de souffrance physique, voire morale, mais Jésus montra et mettra les choses beaucoup plus haut, il dira, mais je ne suis pas venu appeler à la repentance, c'est-à-dire à un changement de vie, si vous voulez entendre par là une conversion, c'est-à-dire une transformation de vie, donc à une nouvelle naissance, mais ce n'est pas les justes, parce que les justes, ils n'en ont que faire, ils n'en ont pas besoin, ils n'en ont même pas le sentiment ou l'idée, mais je suis venu appeler des pécheurs. Or, Jésus est en train de retourner la situation par rapport à cette critique, à ces murmures de ces hommes collémontés qui se pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde et qui se permettent de juger sans savoir et sans connaître aussi les plans de Jésus par rapport à Lévi et puis tous ses compagnons. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ça veut dire que par-delà les soins que l'on peut nous prodiguer pour notre corps, notre âme, eh bien, il y a une autre dimension dont les hommes sont complètement et totalement ignorants, c'est que nous sommes vraiment malades, et des plus malades, je ne sais pas si c'était les publicains et les gens de mauvaise vie, ou alors les pharisiens et les scribes, parce que c'était des malades qui s'ignoraient, et ils ne voulaient surtout pas entendre parler qu'ils étaient malades, puisqu'ils pensaient que, en dehors d'eux, il n'y avait pas d'autre chose. C'était comme ça, c'était la perfection, on pourrait dire. Alors, ceci pour nous dire que dans cette approche que Jésus nous a donnée, j'ai commencé par la conclusion en quelque sorte, pour mettre un petit peu en place la configuration de notre réflexion. La première chose que nous pouvons tirer de tout cela, c'est que vous remarquerez que Jésus a souvent décliné la nécessité du salut des perdus par divers enseignements, paraboles ou autre chose, ou des personnages qu'il a rencontrés et dont il a bien voulu nous laisser l'exemple, le bon exemple ou le mauvais exemple devenu un bon exemple pour nous interpeller peut-être sur notre propre condition pour savoir si nous sommes en bonne santé ou si nous sommes malades. Alors ces enseignements, ils sont devant nous, ils sont multiples. Je vous rappellerai quelques bribes au passage. Vous savez, Jésus l'a imaginé ce monde malade sous l'image de la brebis perdue. Vous vous souvenez, Luc, toujours, cet évangile que nous avons ouvert cet après-midi, et cette brebis qui va partir dans l'ignorance et qui est inconsciente qu'elle est perdue. Elle va dans la montagne, et puis à un moment donné, elle s'est séparée du troupeau, et puis voilà, la nuit vient, tout l'environnement devient hostile, et cette brebis est en grave danger. Et Jésus nous dira, eh bien le berger, lui, il va partir. Il va laisser ses 90 brebis qui sont dans l'enclos, et il va se mettre à marcher dans la montagne dans la nuit, au risque et péril, à ses risques et périls, pour aller jusqu'à aller chercher cette brebis pour la ramener sur ses épaules et la remettre avec les autres. Ça, c'est l'image très frappante d'une brebis qui est perdue, ce monde qui ressemble. Finalement, les hommes sont très souvent inconscients, avant que l'évangile ait touché leur cœur, qu'ils soient perdus. Ils ont bien cette crainte, ils ont la peur de la mort, ça c'est clair. Hein. Mais ils ne font pas trop de cas de leur éternité, du ciel. Alors, ils sont conscients des réalités temporelles hein, et concrètes de cette vie, ça, de ce côté-là, il n'y a plus que ça qui les intéresse. Mais quant à la suite, hein, je vous dis, ils ont cette appréhension, voire même cet effroi et cette frayeur de l'au-delà, mais ils ne vont pas plus loin. Perdus dans l'inconscience et dans l'ignorance de leur perdition. C'est la brebis. Puis, tout de suite après, il y a une autre image que l'on appelle la drame. Le berger est parti à la recherche de cette brebis perdue. La drame, c'est cette image qui est l'image des soins de Dieu ou les soins de Jésus qui va fouiller et qui va chercher jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Vous connaissez cette histoire de la femme qui a perdu une pièce de monnaie et qui va mettre sa maison sans dessus dessous jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvé, elle ne va pas se donner de repos. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'image de Dieu. Vous savez, Dieu use de patience envers le monde qui est perdu, envers chacun d'entre nous, afin que nous parvenions à la repentance. Et Dieu va fouiller, et Dieu va chercher, et il ira jusqu'au bout. La perdition. Je suis venu, non pas pour ceux qui sont bien portants, mais pour les malades. Et puis, il y a cette belle image qui est consécutive, d'ailleurs, à cette première, à cette deuxième, c'est l'histoire du fils prodigue. Ça, c'est l'image de la perdition, de l'égarement volontaire. À main levée, nous voyons ce garçon qui quitte la famille, qui quitte sa maison, et qui va aller se perdre dans toutes sortes de choses, qui va le réduire à la misère, qui va le réduire à la famine, au désespoir, à la dernière limite. Et nous avons à travers cette simple petite image, eh bien, l'image de l'amour de Dieu pour ceux qui sont perdus. Ce garçon était malade, comprenez? Il était malade de liberté. Il était malade d'être malheureux, d'être heureux. Ça peut arriver, hein, ça c'est terrible, mais c'est le monde à l'envers, mais c'est comme ça. Et nous voyons que derrière, il y a l'image de ce père qui attend, qui attend, qui attend très longtemps. Jusqu'au jour où il va voir son fils revenir à l'horizon. Et là, il ne va pas réfléchir très longtemps, parce qu'il est mu par l'amour et la compassion. Il va se précipiter vers son frère, son fils. Il va le serrer dans ses bras, il va l'embrasser. Et puis, il va lui faire la fête. C'était l'objet de notre méditation vendredi soir. Enfin, deuxième partie en tous les cas. L'égarement volontaire, l'homme qui se perd volontairement. Il a besoin de médecin, il a besoin que quelqu'un lui dise « Eh bien, tu es perdu, tu es égaré. Malgré les fautes et les erreurs que tu as faites qui t'ont conduit à cette situation, eh bien, il y a encore une porte, il y a encore une possibilité. Si tu reviens à la maison, si tu fais le pas pour revenir à la maison, il y a un père qui t'attend et qui est prêt à te pardonner parce qu'il a compassion et il est capable de transformer toute ta vie. » Puis, si nous allons plus loin encore, en restant dans les enseignements que Jésus a donnés sur la perdition des hommes, il y a cette femme de mauvaise vie, on l'appellera la prostituée ou la courtisane, ça revient au même, dans la maison de Simon le pharisien. Connaissez? C'est aussi dans la Bible. Cette femme qui a eu une vie tumultueuse, une vie comment pourrait-on dire, sulfureuse, on pourrait ajouter tous les adjectifs que vous voulez, et qui là, eh bien, en ayant entendu parler que Jésus était dans la maison d'un pharisien, de Simon, va oser rentrer dans une maison qui lui était interdite. Vous vous rendez compte, hein, une impure, une femme de mauvaise vie, une femme qu'on fréquente pas, qu'on ne regarde même pas d'ailleurs, et comme elle sait que Jésus, eh bien, est à table, là encore une fois de plus, hein, dans cette maison, parce qu'il a reçu une invitation, et elle va venir derrière lui, elle va se mettre à ses pieds, elle va défaire ses cheveux, et là, eh bien, elle va pleurer. Et elle va, en ayant déposé ses larmes sur les pieds de Jésus, en ayant défait ses cheveux, elle va essuyer. Scandale pour Simon. Et il aura même cette idée, il dira, lui, l'hôte, eh bien, il dira, mais... Ah, si cet homme était prophète, en parlant de Jésus, il saurait de quelle espèce, c'est pas très flatteur, de quelle espèce est cette femme. Et nous voyons que Jésus va retourner la situation, parce qu'il sait qu'il y a des mauvaises dispositions, il y a des mauvaises pensées dans le cœur de Simon. Il va lui dire, tu vois cette femme, elle pleure, je vais te dire pourquoi elle pleure. Elle pleure de repentance, parce qu'elle a eu une vie épouvantable, parce qu'elle a fait des choses qui ne se font pas. Et aujourd'hui, elle prend conscience qu'en cherchant l'amour de droite et de gauche, elle ne l'a jamais trouvé. C'est un amour factice, c'est un amour qui ne mérite même pas de porter le mot amour. Mais quand elle m'a vu, eh bien elle est venue, elle a fait ce qu'elle a fait, elle a pleuré. Parce que pourquoi pleure-t-elle? Parce qu'elle savait qu'auprès de moi, elle trouverait un pardon total et complet de toute son existence et de sa vie. Et parce qu'elle a beaucoup aimé. Oui, elle a beaucoup aimé. Alors à ce moment-là, eh bien, ses péchés sont pardonnés. On est sauvé par l'amour, hein. Ouais, on n'est pas sauvé parce qu'on le mérite. On n'est pas sauvé parce qu'on est un bon garçon ou une bonne fille. On est sauvé tout simplement parce que Dieu nous a aimés. Et qu'en retour, sachant qu'il nous a aimés, eh bien nous sommes prêts à lui donner complètement notre vie et notre existence entière. Parce que finalement, nous avons été vaincus non pas par la force, mais par l'amour. C'est pour cela que nous pleurons. Et la repentance, eh bien, ce sont des larmes, mais des larmes véritables. Jésus montrera aussi la perdition de l'homme sous l'image du figuier, vous savez, qui est stérile. Ah, que de vies sont stériles, hein. Parce que la véritable fécondité d'une vie, là où nous pouvons porter des fruits, eh bien, ce n'est autre hein, lorsque nous rencontrons Jésus. Paul s'en souviendra pour lui. Il dira pour lui-même, il le dit aussi pour tout le monde, il dit « Mais alors que nous étions finalement sans Christ, que nous étions sans Dieu, sans espérance dans le monde, quels fruits portions-nous alors ? Des fruits, si nous en parlions aujourd'hui, nous feraient rougir de honte. » Ça, c'est les fruits de l'humanité qui est perdue. Elle se conforte peut-être dans ces fruits-là, des fruits mauvais, parce que elle se donne une bonne conscience en disant « Mais puisque tout le monde le fait, je peux le faire, alors donc la loi du nombre doit être... expiatoire, ben non. Et dans cette image du figuier stérile, eh bien c'est l'image de cette humanité, que si elle ne rencontre pas son sauveur, si elle ne passe pas par la repentance, par une nouvelle naissance, par eh bien cette donner sa vie à Jésus, elle restera sans fruit. Et ça sera une vie qui sera finalement une vie vaine. C'est pour ça que les gens ont peur de la mort, vous comprenez? Parce que on est fait pour vivre autre chose. Et de l'autre côté, ça serait une autre dimension, forcément, ça serait une autre dimension. Et ce que nous aurons préparé, ce que nous aurons vécu ici-bas, ça nous prépare pour de l'autre côté. Et vous connaissez l'histoire du figuier? Il y a le propriétaire de la vigne, où il y a un figuier de planté au milieu de son champ, et là, eh bien, il l'a donné à travailler à un vigneron, et le maître dit, bien, faut le couper parce que ça ne sert à rien. Il occupe le sol, inutilement, ça ne sert à rien. Et le vigneron qui va venir, un peu à l'image de Jésus, en disant « Mais non, laisse-le encore, fais-lui grâce, je vais revenir cette année, je lui mettrai de l'engrais, et il va peut-être produire des fruits, etc., etc., etc. Ben, » c'est ce que Jésus fait avec chacun d'entre nous pour une humanité qui est perdue. Hein. Le Seigneur ne se lasse pas de venir et de revenir, jusqu'à temps que, véritablement, nous disions oui à son appel. C'est ça l'humanité, comprenez? Et c'est ça le travail du salut. Puis, on en parlait tout à l'heure, hein. L'homme est malade, et le Seigneur veut nous réjouir. Il veut nous réjouir à ses noces. C'est pourquoi il y a au moins deux fois dans l'Évangile, dans les Évangiles, le récit des noces, du festin des noces. Alors, les premiers qui sont invités en disant « ça ne m'intéresse pas ». Les seconds disent « Ah ben non, moi je suis trop occupé, j'ai acheté un champ, je viens de me marier, etc. etc. » Voilà, c'est l'indifférence et le dédain pour l'invitation. Et puis le roi, à ce moment-là, toujours dans la parabole, dit, eh bien, qui est l'image de Dieu naturellement, dit, eh bien, écoutez, vous allez dans les carrefours, vous allez dans les chemins, vous allez le long des sentiers, et puis tous ceux que vous trouverez, petits et grands, pauvres, enfin, tout ce que vous trouverez, vous les invitez à venir à mes noces. Ça, c'est l'universalité du salut. Parce que tout le monde est perdu. Alors celui qui écoute, comme dit Jésus, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà. C'est pour ça que l'évangile doit être prêché. Et c'est une humanité qui est malade. Comme Jésus le disait, mais je ne suis pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et c'est là la raison précisément de l'évangile. Puis que dire encore? Je vous parlerai du jeune homme riche, qui était un malade qui s'ignorait, il était riche, il était jeune, il avait une réputation, il avait certainement tout ce qui lui convenait. Mais le problème, c'est que quand il a été appelé, parce qu'il ne savait pas, Jésus lui a donné, il lui a dit un petit peu, parce qu'il avait vraiment un grand besoin dans son cœur. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Alors il va commencer à débiter tout ce qu'il connaît. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas fait cela, etc. Et depuis ma jeunesse, tu sais, moi je suis bien, je suis le meilleur de tous. Jésus lui dit, te manque une chose. Et il y a bien des gens qui sont dans la même attitude, malades, comme ce jeune homme, qui s'ignorent dans leur misère et dans leur perdition, et qui sont capables de dire beaucoup de choses. Voilà, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, etc., etc. Et le Seigneur de nous répondre, mais il te manque encore une chose, c'est la principale, c'est la vie. Parce que tu n'as pas la vie, tu n'as qu'un ersasme de vie. C'est même pas la vie, c'est une existence. Oh, t'es peut-être plus favorisé que les autres parce que tu es riche, parce que tu es jeune. Mais tu es perdu. Et le grand problème porte là sur ceux qui sont malades. Et pour guérir, il faut qu'ils renoncent à eux-mêmes. Alors vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et viens et suis-moi. Maintenant va prêcher le royaume de Dieu, dira-t-il à un autre. Eh oui. Renoncer, c'est-à-dire que c'est le sacrifice. C'est le sacrifice de notre vie. Surtout que c'est une réponse à un appel, le sacrifice. Si Christ s'est sacrifié pour nous, il nous appelle pour que nous, à notre tour, nous ne montions pas sur une croix. C'est pas ça. Mais que nous puissions sacrifier tout ce que nous avons compris ou tout ce que nous avons conçu ou imaginé comme étant le principal et l'essentiel pour la vie et vivre, c'est-à-dire les moyens, eh bien, que nous lisions maintenant, eh bien, qu'il n'y a plus qu'une chose qui compte. Maintenant, les choses qui étaient en premier vont passer en second. Et puis, on va te donner la première place. Tu as la première place. Ça, c'est aussi une image de notre humanité qui est perdue. Puis, vous parlez très rapidement de Zachée. Oui. Zachée, lui aussi, c'était un collègue à Matthieu Lévy, hein. Il était au péage aussi. Il était collecteur d'impôts. Il était haï de la population de Jéricho. Mais il avait envie de voir qui était Jésus. Il ne voulait pas seulement se contenter de ce qu'on lui avait dit de Jésus. Il voulait le voir. Et il n'a pas trouvé le meilleur moyen, comme il était petit, de monter dans un arbre. Alors il est grimpé dans son arbre, il pensait finalement voir Jésus sans être vu, et là il s'est trompé, puisque Jésus s'est arrêté au pied du sycomore, il lui a dit, dis donc, Zachée, surprise, descends, maintenant j'ai quelque chose pour toi. Et il nous a dit que Zachée l'a reçu avec joie, dans la spontanéité finalement de son cœur, pour lui donner finalement l'hospitalité. Ouais. Il y a des gens comme ça qui veulent voir Jésus. C'est aussi, il était à la recherche, il avait certainement un problème, Zachée. C'était pas le meilleur des meilleurs, hein. Il allait certainement pas au temple ni à la synagogue, mais au fond de son cœur, même si c'était un publicain, il y avait quelque chose qui bouillonnait dans son cœur, dans une recherche de vérité, de justice, et il l'a trouvé en Jésus-Christ. Nicodème, lui aussi, c'était un pharisien. C'était un malade. Pourtant, c'était un homme qui était hautement considéré, il était membre du Sanhédrin. Mais il avait la vérité dans son cœur. C'était un homme qui avait de la rectitude dans son cœur. Alors il est venu un soir. Oh, il n'est pas fait en plein jour, mais il est venu la nuit. Mais c'est quand même bien, il est venu quand même. Et il est venu voir Jésus en disant, mais écoute, nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc il avait reconnu une puissance. La puissance de Jésus. Et là, ça a été le choc de sa vie parce que il pensait, lui, qui était un notable de la société en Israël, religieux lui-même, ah, il n'avait jamais entendu ça, hein. Il avait enseigné les autres, mais quand Jésus lui dit, mais tu sais, Zachée, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, si tu veux être sauvé, il pensait qu'il était sauvé par ses œuvres aussi. Si tu veux être sauvé, il faut que tu naisses de nouveau. Alors là, ça l'a complètement, il comprenait plus rien du tout, hein. Et pourtant, je ne sais pas ce qu'il est devenu, Nicodème, mais moi je crois qu'il a fait une expérience. C'est aussi pour des hommes perdus, du genre de Zachée, du genre de Nicodème. Si je vous parle de la Samaritaine, c'est la même chose. Ah oui, la Samaritaine, elle avait très soif. Et elle avait soif, elle a toujours eu soif. Mais cette soif-là, elle n'a jamais pu l'étancher. Parce qu'elle pouvait revenir tous les jours chercher de l'eau à son puits, elle avait toujours et aussi et autant soif que la veille. Jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus. Elle était perdue. C'était une femme aussi un petit peu particulière. Hein. Et vous avez remarqué, c'est que des gens comme ça que le Seigneur appelle. Il veut remplir son Église, il veut remplir le corps de Christ. Dieu veut le remplir avec des gens qui sont malades. Voilà, malade physiquement, aveugle, boiteux, et tout ça, on en trouve plein dans l'Évangile. Il veut aussi remplir son Église avec des gens qui sont pas bien à l'intérieur d'eux-mêmes, qui sont malades, qui sont dépressifs, qui sont angoissés, qui sont anxieux, etc., etc. Oui, mais s'il nous appelle, c'est pas pour rester comme ça, c'est justement pour qu'il nous guérisse, il est le médecin. Alors, pour revenir à notre Samaritaine, Jésus lui dit, écoute, hein, moi j'ai quelque chose pour toi. Tu veux guérir? Eh bien, tu viens, appelle ton mari. Elle était plutôt ennuyée, parce que là, c'était véritablement un séisme moral hein, qui lui a posé comme question. Puis, petit à petit, il l'a amenée à divers degrés. Elle a commencé par lui dire, « Mais je vois que tu es prophète. » Et ensuite, à la fin, elle lui a dit, « Mais c'est le sauveur du monde, c'est le Messie. » Vous rendez compte? Jésus l'a amenée par différentes étapes, finalement, à le reconnaître comme le sauveur. La femme adultère, c'est quelque chose aussi, hein. Voilà, il y a du bruit dans la ville, on est en train de crier. On traîne une femme, hein, elle marche pas, on la fait rouler par terre. Et là, il y a Jésus dans un endroit, sur une place, et puis il y a des gens qui sont hurlants, vociférant contre cette femme parce qu'elle était saisie en flagrant délit d'adultère. Elle était malade aussi, hein. Et bien malade. Mais elle était considérée comme perdue, irrécupérable par ces messieurs de la haute société. Et pour la soigner, vous savez ce qu'ils ont dit? Ben, le mieux c'est de prendre des pierres et de la finir. C'est terrible, une chose pareille. Terrible. Et Jésus dit, écoutez, bon, c'est très bien, vous voulez la tuer? Alors voilà. Eh bien, que le premier qui se sente vraiment en bonne santé, qui n'est pas manal lui-même, qui n'a jamais péché, prenne des pierres et jette la pierre sur elle. Le premier, faites-le. Et là, on voit, ils sont complètement déconcertés, tout le monde lâche la pierre et tout le monde s'en va. Et Jésus lui dira, mais écoute, tu es une malade, hein, vraiment. Mais moi, une chose que je voudrais te dire, non seulement ma parole te guérit, mais je ne te condamne pas, va. Recommence une vie nouvelle. C'est toutes ces histoires que nous avons à travers tout cela. Et puis pour finir, simplement, j'aimerais citer un texte que nous avons dans... Parce que c'est des beaux textes, vous allez voir. Si vous voulez connaître et si nous ignorons encore notre condition, écoutez ce que nous dit Paul, parce que lui c'était un malade aussi, Paul, avec des idées très très mauvaises hein, et assez violentes. Eh bien, vous savez ce qu'il écrira aux Éphésiens, longtemps après sa conversion. Il dira ceci dans Éphésiens chapitre 2, « Vous étiez morts par vos offenses, c'est sans appel, hein, et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez !» Et après, il s'inclut dedans, il dit, « Mais nous aussi !» Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ouais. Voilà un malade qui a été consulté le divin médecin, et le médecin lui a dit, mais tu es perdu, Paul. Paul qui était perdu, vous rendez compte? C'est pas possible. C'était un juif qui avait été élevé au pied de Gamaliel, qui avait reçu certainement la meilleure de toutes les éducations qu'on puisse imaginer en Israël. Il était zélé, il était, presque un fou de Dieu. Mais ce Dieu, il ne le connaissait pas, parce que quand il est tombé de son cheval sur le chemin de Damas, alors que Jésus était en train de l'appeler, il lui a répondu, mais qui es-tu, Seigneur? Donc il ne le connaissait pas. On peut avoir une religion sans connaître Dieu, hein. Il était malade. Malade de ses illusions, malade de tout un contexte traditionnel, cérémoniel et tout ce que vous voulez, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Mais Dieu qui est riche en miséricorde pour poursuivre, à cause du grand amour qu'il nous a aimé, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants en Christ. Notre Dieu qui est un Dieu de miséricorde, je le répète parce que je crois que c'est une belle définition, le mot miséricorde, je le répète. Ça veut dire deux choses. Dans le mot, il y a deux mots. Dans ce mot-là, il y a deux mots. Deux sens. misère, parce que l'homme perdu est dans la misère, il ne le sait pas. Et puis, cordial, qui vient du mot cœur, ce qui montre bien que Dieu a un cœur pour nous aider, pour nous aimer dans notre misère et nous sauver. Il nous a rendus à la vie, il nous a rendus vivants. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés, on ne mérite rien. Si je suis pécheur, si je suis perdu, qu'est-ce que je peux prétendre, puisque finalement c'est irrémédiable. La seule chose, c'est que je crois en Jésus-Christ, et parce que je crois en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi, à ce moment-là, la croix du calvaire a fait l'expiation de mes péchés, et je suis pardonné sans avoir rien fait. Simplement en croyant. Je suis venu pour des pécheurs et non pas pour ceux qui n'ont pas besoin de repentance. Ça passe par là, le salut, c'est pas autre chose. Et je finis avec Romains, quand il nous a dit cette parole également, parce qu'elle est très forte. Chapitre 5 et au verset 15 et 19, il est dit ceci. « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, ça c'est la plus belle phrase de l'Évangile. La grâce a surabondé afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quelle parole et quelle puissance à travers ces paroles. Comme par un seul homme, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Vous savez à qui on pense, hein? Adam. Nous sommes de la race et de l'espèce adamique, et on n'a pas besoin de nous faire un apprentissage pour savoir ce que c'est que le mal. On sait le faire. On a beaucoup plus de difficultés à faire le bien. Ça, c'est une chose. Mais bon, l'homme est capable des deux. Mais toujours est-il que c'est à travers cette condition. Dieu a renfermé, je l'ai dit, tous les hommes dans la désobéissance, non pas pour nous condamner, nous juger, mais que nous prenions conscience que nous sommes désobéissance, que nous sommes ennemis de Dieu et que nous avons besoin de revenir à lui pour faire la paix à travers Jésus-Christ et que là, eh bien, il nous fasse grâce tout simplement par notre foi que nous mettons en lui. Donc, par la désobéissance d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et ce seul, un seul dans l'histoire de l'humanité, c'est Jésus qui est mort à la croix. C'est le salut qui est proclamé, c'est l'expiation de nos péchés, c'est la substitution en lieu et place pour nous, il est mort à notre place pour que nous nous vivions. Et à partir du moment où il a obéi Jésus, il a été au bout de son obéissance, eh bien c'est comme si nous avions obéi c'est comme si nous avions obéi parce que nous sommes couverts et Dieu nous voit maintenant dans sa justice parfaite, non plus comme condamnés et condamnables. Mais il nous voit comme, comment dit-on, comme graciés, comme absous de tous nos péchés. Nous avons été libérés de nos fautes parce que c'est Jésus qui a pris notre place. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose, ça. Est-ce que le monde est capable de le croire? Est-ce qu'il est capable de venir au divin médecin pour qu'il lui fasse une ordonnance? L'ordonnance, elle est très simple, hein. Elle est longue, hein. Vous n'avez pas à la lire dans une soirée. Mais c'est toute la Bible. C'est ça l'ordonnance. Tous les hommes sont pécheurs, ils sont perdus. Nul n'est intelligent devant Dieu, mais si nous le croyons, et que c'est vrai parce que nous pouvons le constater autour de nous et d'abord aussi en nous, alors à ce moment-là, l'ordonnance, elle nous dit le caractère même et la gravité de notre maladie et de ses conséquences, mais elle nous donne le remède. Parce que faire une ordonnance sans remède, ça sert à rien, hein. Vous sortez de chez le médecin, il vous fait une belle ordonnance, vous n'allez pas chez le pharmacien, vous prenez rien du tout. C'était même pas la peine d'aller voir le médecin. Eh bien, c'est ça. Il y a peut-être aussi dans le monde religieux des gens qui disent, mais moi, j'ai plusieurs bibles dans ma bibliothèque, mais je les lis jamais. Bah, ça sert à quoi, alors? Ouais. Et pas seulement de les lire, parce qu'on peut les lire, mais il faut le croire. Voilà. La Bible, elle est faite pour être crue. Alors, à ce moment-là, eh bien, je suis comme l'homme qui regarde son visage dans un miroir, comme nous dit l'apôtre Jacques, et que, soit je vais me remettre un petit peu la mise pour être beau, ou alors, à ce moment-là, je vais rester comme je suis, puis ça sert à rien. Si on se regarde dans un miroir, mesdames et messieurs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on se regarde pour voir s'il n'y a pas une petite rectification. Moi, ma femme, elle me dit que t'es souvent mal peignée. Alors, je suis souvent devant le miroir, je me mets comme ça, avec de la gélatine. Non, pas de la gélatine, pas tout ce que vous... Non, excusez-moi. Je vous trouble, hein? Non, non, mais c'est un petit clin d'œil que je fais au passage. Mais pour vous dire que je remets ma mise en forme, vous comprenez? Alors, quand je vois les gens, ils me disent « Oh, qu'est-ce que tu es beau, dis donc, c'est bien, hein? Ça me fait plaisir et ma femme est calmée. » Voilà, tout simplement. Alors, bon, on passe à autre chose. Donc, ils seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. La loi sert à quoi? Les lois naturelles dans notre pays, par exemple, et comme dans tous les pays du monde, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, c'est des lois civiques, ce sont des lois de la circulation automobile, etc. Il y en a des lois partout, hein. Malheur à celui qui les enfreint, hein. Il y a des amendes, il y a des choses beaucoup plus conséquentes que cela, hein. Alors la loi, elle a été donnée, la loi morale de Dieu, elle a été donnée, parce que cette loi, quoi qu'on en dise, elle est pure, elle est sainte, elle est juste. Et on est confronté à cette loi, notre conscience nous le dit, hein. Quand on marche de travers, on sait très bien, boum, le cœur qui bat, hein, comme ça, et on commence à rougir en disant « j'ai fait une faute ». Voilà. Bon, on peut toujours revenir vers le Seigneur pour lui demander pardon, et il va nous pardonner. Ça, c'est une chose. Mais la loi, le monde entier a été renfermé dans la loi, et il nous est dit que là où le péché a abondé, c'est formidable, la grâce a surabondé. Ça ne veut pas dire « Seigneur ». Vous avez compris ce que je veux dire? J'en profite et je continue à pécher parce que je sais que de toute façon, ta grâce va surabonder. C'est pas ça, hein? Ah non, c'est pas ça. Le Seigneur va nous amener à comprendre à un moment donné qu'on n'a plus envie de pécher, que le péché nous dégoûte. Il nous rend malade, il nous donne la nausée. Ah oui, ben c'est bien, c'est bon signe quand c'est comme ça, hein? Ça rend malade, hein? Pour guérir, quelquefois, il faut être malade. C'est comme les médicaments, c'est pareil, hein? Vous savez, il y a des médicaments qui sont bons. Hein, moi, j'aime bien l'huile de foie de morue quand j'avais 10 ans. Délicieux. Hein, ça poussait un bonbon qui était derrière. Mais toujours est-il, pour ceux qui ont connu ça, ce sont les anciens qui ont connu l'huile de foie de morue, naturellement. Mais toujours est-il qu'une chose qui est certaine, c'est que quelquefois pour guérir, il y a un peu d'amertume. Hein. Eh bien, faut vomir notre péché, faut être malade de notre péché. Et c'est un apôtre qui dira ceci, c'est Pierre, je crois, qui dira, mais celui qui en a fini avec la chair, on a fini avec le péché. Celui qui a souffert de la chair, on a fini avec le péché. Voilà. Alors, la grâce, eh bien, elle surabonde, parce que Dieu est un Dieu, eh bien, qui nous regarde avec un regard, qui nous regarde avec une vision de bienveillance pour que nous soyons sauvés, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, eh bien, nous sommes vivants. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit? Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. J'espère que je ne vous ai pas rendu malade cet après-midi, hein? Non, on est là pour être guéri. Guéri de tellement de choses. Et guéri encore, même si nous croyons, déjà depuis peut-être des mois et des années, il y a encore tellement de choses à faire en nous. Mais nous pouvons nous approcher de notre Dieu. Il est le parfait médecin de nos corps, de nos âmes et de nos esprits. Et puis pour ceux qui seraient au milieu de nous, qui n'auraient pas découvert en Jésus le véritable médecin, le médecin divin, eh bien acceptez-le comme votre sauveur personnel et faites-lui une totale confiance. Il est venu spécialement pour vous sauver. Alors nous allons prier quelques instants si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle est pleine de sens. Elle a une signification tout à fait pertinente, mais elle s'adresse vraiment à la condition des hommes. Les hommes, avec les religions, leur philosophie, ont essayé d'approcher le problème de la misère, ont essayé d'approcher le problème de la corruption, Seigneur, de l'espèce humaine. Mais Seigneur, rien ne peut y faire. Nous croyons qu'il n'y a qu'une solution. La solution, elle est en Christ. La solution, elle a été donnée par Christ. Elle nous est offerte par Jésus-Christ. Eh bien, c'est à nous véritablement de l'accepter, de prendre cette réponse que Dieu a donnée aux hommes. Et c'est vrai, Seigneur, autant que je veux me cantonner en disant « je ne suis pas malade, je ne suis pas un pécheur, je suis bien, je suis un propre juste », à ce moment-là, le salut n'est pas pour moi, non seulement parce que Dieu ne veut pas me le donner, mais au contraire, et c'est moi qui le refuse, par mon orgueil. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu nous visites, tu nous fais du bien, et Seigneur, je viens devant toi. Même si déjà, eh bien, il y a eu des choses merveilleuses dans ma vie. Là, lorsque j'étais dans le péché, dans le mal, dans mon ignorance, dans mon incrédulité, eh bien, tu as fait abonder la grâce en ma faveur, comme tu le fais encore pour tous ceux qui s'approchent de toi cet après-midi, qui entendent ta parole et qui te disent tout simplement, eh bien, Seigneur, sois mon sauveur et deviens le Seigneur de ma vie. Merci, Seigneur, pour l'histoire de Matthieu Lévy. Merci parce qu'il t'a suivi, il s'est levé, et puis, en effet, les choses ont été très rapides, parce qu'il avait tout compris. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu n'es pas venu sauver les justes, mais tu es venu sauver des pécheurs, que nous sommes et que nous reconnaissons être. Mais Seigneur, nous avons reçu ton pardon et nous y croyons, et notre vie a été bouleversée, changée. Merci, mon Dieu. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.